Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet. Je suis votre hôte, je m'appelle Hervé et je suis, croyez-moi, ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons parcouru le chemin des rois d'Israël et cela pendant quelques semaines. Eh bien, demain, nous allons terminer ce livre. Laurence est notre lectrice aujourd'hui et elle nous lit de la version de la Bible, second 21. Laurence, c'est à toi.
Deux Rois, chapitre 22, verset 3 au chapitre 23, verset 30. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam. Il lui dit « Monte vers le grand prêtre, Hilkija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour l'achat de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. » C'est alors que le grand prêtre, Hilkija, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à son propre serviteur, Azaja. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Le prêtre Hilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tikva et petit-fils de Haras, et elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre, Hilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée de Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, vers le torrent du Cédron, et là, il le brûla. Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beer-Tcheva. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom, impur, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Netan-Melek, qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse, de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, à droite du mont de la destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construit en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, de Chémosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Bethel, ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel, proclamé par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois ?» Les habitants de la ville lui répondirent, « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors, « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conserva ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les centres de haut lieu qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla les ossements humains. Puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque, pareille à celle-ci, n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphins, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le prêtre Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda, à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi, l'Éternel dit : « Juda aussi, je vais l'éloigner de moi, tout comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit : c'est là que résidera mon nom. » Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et le pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi à la place de son père. Acte 21, verset 37 à Acte 22, verset 16. Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant : « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit : « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert ?» Paul reprit : « Je suis juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. « Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors : « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai moi-même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit : que dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit : lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit : Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté : le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. »
Alors comme vous le savez, chaque jour, nous vous lisons un passage de l'Ancien Testament et également un passage du Nouveau Testament, un psaume et un des proverbes. En fait, quant au psaume, nous le lisons deux fois dans l'année. Nous les avons terminés hier. Nous recommençons donc aujourd'hui. Vous savez, le mot hébreu pour dire psaume est télim, c'est-à-dire louange. Et les psaumes sont en fait une collection de 150 chansons, hymnes, chants d'assemblée et chants individuels, ainsi que des poèmes également de culte. Il s'agit essentiellement de 5 livres rassemblés en un seul, et ils sont classés par auteur, par thème ou par sujet. Certains louent Dieu, d'autres parlent de son caractère ou de ses actions, d'autres encore sont des chants de lamentation ou de repentance, tandis que d'autres sont des chants d'action de grâce. Quelles que soient les circonstances, le livre des psaumes a pour but d'apporter louange, gloire, adoration, vénération et honneur à Dieu en toutes circonstances et pour toutes fins utiles. Les psaumes représentent un beau livre qui contient certaines des poésies musicales les plus sincères et touchantes jamais écrites, car chaque émotion humaine concevable y est explorée. On y trouve des cris du cœur si passionnés et brisés que l'on peut les ressentir à travers les frontières du temps. Et pourtant, on y trouve aussi quelques sublimes expériences au sommet des montagnes où la gloire du Seigneur est tangible et présente. David, le roi d'Israël, qui était maître musicien, a composé la plupart des psaumes. Bien que nous ayons une grande quantité d'informations sur David dans le reste de la Bible, les psaumes nous révèlent son cœur. Nous constatons qu'il est tout à fait humain et les aléas de son humanité sont toujours présents dans ses compositions. On compte parmi les autres auteurs Salomon, fils de Corée, Asaph, Ethan, puis il y a un certain nombre d'auteurs inconnus ou anonymes. Mais au fond, le but des psaumes était de rallier les peuples et d'enrichir l'expérience d'adoration d'Israël. Les chansons auraient été chantées en public et dans les résidences privées pendant que les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ils ont résisté à l'épreuve du temps. Nous les chantons et les citons encore aujourd'hui. Leur puissance et la beauté durable sont inégalées. Ils sont absolument incomparables. Les spécialistes pensent que les psaumes ont été écrits sur une longue période, entre environ 950 avant Jésus-Christ à environ 165 et 170 avant Jésus-Christ. Trois grandes périodes d'Israël sont couvertes. La première période serait celle du règne de David et de Salomon. La deuxième période est celle des chansons écrites lorsque les enfants d'Israël s'étaient retrouvés en exil à Babylone. Et la troisième période serait celle des écrits datant du moment où ils ont été libres de rentrer, refonder leur terre après l'exil. Une large période et différents points de culture sont représentés ici. Mais les psaumes restent très cohérents dans leur but d'apporter gloire et honneur à Dieu d'une très authentique et belle manière. Nous lisons aujourd'hui dans le livre des psaumes, le psaume de David, lorsqu'il fuit loin de son fils Absalom.
Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemble à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Proverbe 18, versets 11 et 12. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve l'humilité.
Et merci beaucoup Laurence pour ta lecture et nous allons faire un commentaire qui nous amène vers le roi Josias, qui nous amène à parler du roi Josias qui était un bon roi, qui a travaillé sans relâche pour rétablir la faveur de Dieu en Israël. Il a détruit les idoles qui s'étaient mises entre Dieu et son peuple. Et Josias a également reconnu le péché qui menaçait de détruire le peuple de Juda. Puis, il a pris des mesures pour éliminer les causes profondes de leurs fautes, ainsi que celles de leurs pratiques pécheresses. La vérité, c'est que Dieu n'est pas moins révélateur pour nos vies aujourd'hui qu'il ne l'était pour le peuple de Dieu à l'époque de Josias. Notre relation avec Dieu est inséparable de tous les autres aspects, oui, de nos vies, que ce soit nos relations avec les autres, nos attitudes ou nos actions. Regardez attentivement l'approche de Josias pour s'attaquer au péché. Comment l'imitation de ses actions pourrait-elle être efficace dans le traitement du péché dans la vie des croyants aujourd'hui? Merci de nous avoir écoutés, chers amis, et nous espérons vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.